Hélène Bessette est seule, écrit seule, décide seule de faire œuvre. Je comprends que personne, un jour, n'a dit à Bessette, écrivez, ne faites que ça, vous êtes faite pour ça. C'était pas la peine. C'était déjà fait. C'était déjà en train de se faire. Comme, par exemple, ça a été dit à Marguerite Duras. Écrivez, ne faites que ça. Comme je pense, Simone de Beauvoir l'a dit à Violette Le Duc. Écrivez, ne faites que ça. Et ça marche. Quand quelqu'un vient soutenir avec vous votre désir, le soutenir à votre place, à notre place, ça marche, hein, au moins pendant quelque temps. Après, il faut qu'autre chose, quelqu'un d'autre prenne le relais encore. Mais moi qui travaille avec les chanteurs notamment, le jour où ils passent une audition et qu'on leur dit « voix souveraine, c'est magnifique, vous êtes chanteuse, ne faites que ça », ça marche, il n'y a plus de doute. Ça marche pendant 3 semaines. Je reviendrai sur cette question-là. Bessette soutient seule son désir d'écrire, sa nécessité d'écrire. Elle le soutient jusqu'à la mort. Et là, à un moment, ça ne s'écrit plus dans sa tête. Nous avons délaissé, quand je dis nous, c'est surtout Cédric et moi, puisque Julien avait déjà fait tout ce travail, nous avons délaissé depuis pas mal de temps la tentation de rabattre l'œuvre sur la vie privée de Madame Bessette. Dans l'enthousiasme de nos premières lectures, nous la voyions partout. Et sa souffrance était irradiante, partout. Sa souffrance était aveuglante, je dirais. Et puis elle nous a si souvent congédiés, d'une phrase interrompue, d'une porte claquée, d'un silence énigmatique, d'un changement de nom, d'un changement de nez. C'est pas le même nez, c'est pas elle. Alors on a fini par lâcher l'affaire. On n'expliquera plus l'œuvre par la vie de l'écrivain. Et on s'occupera de l'œuvre, c'est tout, et que de l'œuvre. Et je dirais même, le jour où nous pourrons consulter la correspondance, parce que ce jour viendra, le jour où nous pourrons consulter les journaux intimes, parce que ce jour viendra, nous ne nous occuperons que de l'œuvre. Strictement que de l'œuvre. C'est-à-dire chercher là-dedans, dans les lettres, dans le feuilletage des lettres, nous irons chercher uniquement les petits cailloux blancs qui nous permettront de retrouver l'élaboration de l'œuvre. Dora, c'est elle, Lily, c'est elle, Désirée, c'est elle, Rose, c'est un peu elle, Émilie, Edmée, Aimée, c'est elle, sans doute. Elle est dans tous ses noms, elle est dans les autres, comme c'est tellement beau au début de 20 minutes de silence. Hein. Elle est dans les autres. Elle est dans les autres, donc elle est dans nous aussi. Et nous nous lisons dans ces textes. Grâce à l'intellection par laquelle elle capte des mouvements très subtils de l'esprit. Comment elle capte dans quelle complexité naît un sentiment. Et en fait, elle y a accès parce qu'elle l'observe d'abord et le déterre d'abord en elle-même. Ça se passe d'abord en elle. Donc oui, Bessette est au centre de son œuvre. Et dans toutes les régions de son écriture. Mais elle n'y est pas en tant que Madame Bessette, personnage affectif. Elle y est en tant que lieu. Bessette est le lieu où se produit l'écriture. Le reste ne nous intéresse pas, plus. Peu nous importe son amour, son animosité pour un tel ou un tel. C'est vrai que ça nous fait rire quand on écoute l'entretien avec Paget sur France Culture. Hein? Oui, Monsieur Solers, bien sûr, Monsieur Solers, tout ça nous fait rire, mais qu'importe quoi. Bessette avance tête baissée. Grande ballade, hein, écrite tête baissée, pour enfoncer le mur de papier de la vie ordinaire, l'apparence bête de la vie admise. Elle écrit, elle publie, sans se soutenir d'aucun mouvement, d'aucune cause. Ou pour cette seule cause, vaste, inépuisable, défendre le territoire et la vérité de la personne face aux mensonges de masse et à l'ordre de l'urgence. Faire œuvre, se risquer à être, c'est pas un jeu. C'est une détermination. Et je me suis demandé qu'est-ce qui lui donne la force de se risquer à être, demeurer hors classement, hors catégorie, et à tenir tête au silence qui va entourer la sortie de ses œuvres. Claire nous a magnifiquement donné, c'était important hier, ces chiffres. Hein. Les chiffres de publication et les chiffres d'achat, les chiffres de vente. Et face à l'état des choses politiques, économiques, sociales, elle refuse d'être réduite à une position d'infériorité ou d'impuissance, même quand elle écrit. Parce que c'est l'écriture. Venue de bien bas, une voix douce et polie. Ma mère appartenait au monde désuet et mort de l'honnêteté. Le docteur, feuilletant le cahier, me dit « Il ne faut pas écrire de roman, parce qu'elle était malade, et il ne faut pas aller aux colonies. » J'étais raccourcie physiquement, moralement, intellectuellement, socialement, mais je vivais. D'autres n'ont pas survécu. C'est un extrait d'un inédit, La Première Heure, qui s'intitule La Première Heure. Quand le travail de l'écriture se confond avec la vie, devient la vie. Hélène Bessette voulait être employée. Elle voudrait être employée et voudrait garder ce poste d'institutrice, de ce poste de professeur de conversation. Elle voudrait bien garder ça. Ça ne marche pas. Hein? Le directeur de l'institut meurt. Elle perd son poste. Les parents pétitionnent. L'inspecteur la déclare inapte. Elle perd son poste. Hélène Bessette serait-elle inemployable? Au sens premier du terme. Inemployable, Bessette. Entre elle et la société du travail, la situation, la société du travail en France dans cette seconde partie du XXe siècle, ça ne marche pas. Alors qu'est-ce qui résiste? De la société ou d'Hélène Bessette? La lucidité assassine avec laquelle Bessette touche aux zones de jouissance, aux zones de frottement entre l'intime et le public. Entre la chose intime et la chose publique. Cette lucidité ne s'éteint pas quand Hélène Bessette travaille, quand elle est employée. cette lucidité est toujours là et elle est perçue, même si elle n'est pas dite, elle est immédiatement captée. Et surtout quand Hélène Bessette se tait et ne fait que regarder, alors cette lucidité assassine est immédiatement perçue. Bessette écrit à partir d'elle, à partir de l'expérience qu'elle a, de la famille, du couple, de l'église, de l'école. Et il est vraisemblable qu'elle observe les élèves, ses petits A de maternat, dans sa classe à Tourouvre, hein, et les parents des petits A et ses collègues, elle les observe avec cette même lucidité, comme elle observe les membres de sa propre famille avec cette même lucidité. Et elle distingue ce dont on ne parle pas. Et on n'en parle pas parce que tout simplement, si on en parlait, ça deviendrait indivin. Hein? Il faudrait se quitter. Des fois, il faut se quitter aussi. Ou s'éloigner au moins. Et ça deviendrait vite intolérable. Par exemple, la solitude terrible de l'enfant et l'indifférence qui l'entoure, avec quelques remords parfois de la part de l'adulte, quand même la souffrance de l'enfant vient se voir un peu trop. Hein? Et ça se voit surtout quand on s'arrange avec ça, et elle voit comment on s'arrange avec ça, comment on la masque avec, je cite, les courtes tendresses des mots communs. C'est tellement incroyable cette phrase, hein? Les courtes tendresses des mots communs. Le petit cœur du bout des lèvres, un peu, pas trop quoi, hein? C'est dans la grande balade. Et j'imagine que son regard à Bessette manquait du consentement minimum qu'on attend pour bien s'entendre et travailler en connivence. Je rappelle que connivere, l'étymologie de connivence n'a rien à voir avec complicité, connivere, fermer les yeux sur, laisser faire. Et donc, elle manque, son regard manque de ce qu'il faut de connivence pour faire ensemble. Hein? Et je pense au regard qu'elle a sur une photo où elle me rappelle toujours le visage d'Artaud. Cette photo où elle est assise, je crois que c'est la position que tu avais quand tu démarrais, tu te souviens, à la maison de la poésie, je crois bien, et qu'elle a les mains autour des genoux. Elle a un visage presque masculin à ce moment-là, qui m'a toujours rappelé le visage d'Artaud. Et ce regard parle. Son éloquence, son éloquence est redoutable. Alors, on dit la porte, Bessette. Venons à la fiction. Ce qui génère de la fiction chez Bessette, je me suis posé cette question, c'est ce qu'elle attrape de la doublure des choses et des êtres. Et qu'il faut une adresse très très fine pour décoller, pour mettre en lumière. Et cette doublure est ce qui fait qu'une chose se donne soudain à voir autre, presque à l'opposé de ce qu'elle paraissait être. Je ne vais pas citer en entier, mais par exemple, je le dirai demain soir avec Cédric, dans Grande Balade, il y a le vers, l'abondance du vers, souverain, implacable. Je prends juste des petits passages. L'étrange à la couleur verte, l'extraordinaire l'emporte. À grands coups de pinceau, toutes les gammes du vers répandues jusqu'au fond des eaux. Du vers, des hommes différents, cela va de soi. Habitués à vivre dans la splendeur en vers, etc. Peinture à grand spectacle. Le vers, la couleur verte, entassée. Danse, l'impénétrable forêt du verre, toujours plus profonde, plus creuse, plus vraie, plus secrète, plus réelle, plus pesante, colle à la peau, terre vivante, enlace, on ne s'en défait plus, trop de verre, verre désespérant, jusqu'au désespoir, jusqu'à la fin, jusqu'à en mourir. De soif, de faim, de maladie, de sécheresse, de fièvre, de danger, de fatigue, de malheur. L'étrange en marche. Le jour coule, les voyageurs coulent. C'est-à-dire, voyez ce renversement. C'est souverain, c'est magnifique, et c'est trop, et ça pèse, et ça colle, et on s'en défait plus. Altération, oxydation. L'image se dégrade, et la fiction commence là. L'image se dégrade, dégradée de couleur, comme on dit un dégradé, et dégradation, image effritée, abîmée, lentement effondrée. Elle tourne sur elle-même, l'image. Elle laisse apparaître une autre face, ou bien elle se défait ses faces, on ne reconnaît plus, plus rien. C'est toujours la même chose et c'est méconnaissable. Bien sûr, inquiétante étrangeté. Ce qui, du familier, devait rester voilé. Ce qui, du familier, devait rester dans le secret, dans l'ombre, et qui en est sorti. Et ce n'était pas prévu. L'image tourne, la sensation tourne, comme on dit que le lait tourne. Le lait a tourné, a caillé, viré allègre, périmé. Cette corruption insidieuse des choses, de la manière dont on voit les choses, dont on dit les choses, dont on voudrait que les choses restent visibles, cette corruption insidieuse, constitutive aussi de la splendeur des choses. Je l'ai vécu aux Marquises. Expérience déterminante, ces mois passés aux îles Marquises, à Nuku'iwa essentiellement, et qui n'est pas du tout étrangère à ma rencontre avec Hélène Bessette, et en particulier avec la Grande Balade. Le séjour dans l'autre hémisphère, sur des terres aux histoires lourdes de conquête, d'asservissement, de violence, dans une nature saturée de beauté, provoque une déchirure intime, une marque indélébile, quelque chose se brise. Et c'est là où ça se brise que l'on peut se mettre à entendre, à écrire. Toutes les images que je garde des Marquises sont une magnificence doublée de violence. Et c'est peut-être là-bas que la question du réel, pour moi, s'est polarisée, s'est concrètement manifestée. Petit souvenir. On ne retrouve aux Marquises, on ne retrouve jamais les corps des hommes qui ne reviennent pas de la mer. Ils sont partis en bateau, ils se sont noyés. On ne retrouve jamais les corps. Ils se sont noyés, me disait un marin là-bas, parce qu'ils ont pissé contre le mur de la nuit. Les mains trop occupées, ils ont perdu l'équilibre, ils sont tombés. Les courants sont forts, les corps dérivent et finissent dans ceux des requins. Image magistrale de l'homme, un instant souverain, se soulageant dans l'immense nuit que prolonge la mer, et de s'occuper de son sexe, chutant dans l'abîme. Bessette et les Marquises, pour moi, c'est l'un dans l'autre. On retrouve de roman en roman cette altération des lieux, des personnages, des objets. On croit reconnaître, on croit s'y retrouver, et c'est pas ça. Ce n'est plus ça. Bessette engage dans son écriture un travail d'altération par lequel elle rompt la chaîne des consentements sur ce qui est à penser, à voir, à éprouver. Un processus quasi chimique, comme une rupture de la chaîne moléculaire qui se produit sous l'effet d'une oxydation. Bessette oxyde les certitudes, elle oxyde les croyances, elle oxyde les façons de les dire. Bessette a produit pour, sur moi ce que Giacometti avance à propos de Cézanne. Giacometti dit, c'est à cause de lui qu'aujourd'hui, toute la vision de la réalité est remise en question. Et il faisait beaucoup allusion, évidemment, à la fameuse Sainte Victoire et aux multiples façons dont Cézanne a peint la Sainte Victoire. En fait, continue Giacometti, il a ouvert un gouffre devant lequel chacun cherche à se sauver comme il peut. Et j'ai envie de dire, devant Bessette, on cherche chacun à se sauver, dans tous les sens du terme, comme on peut. Le gouffre serait ce qui se voit ou ce qui fait signe, lorsque les représentations de la réalité ne le masquent plus. Il serait la possibilité de voir la chose dénudée. Un autre exemple de dégradation, dans Fading, inédit. Je vais vous citer trois petits extraits, très courts, qui disent presque la même chose, à deux pages d'intervalle chacun. Page 3. Quelque part dans les bruyères, où les ajoncs, les rocs, les fougères, les broussailles, peut-être, les taillis touffus, les ronces enchevêtrées. Page 5. Toute l'église derrière lui, dans les broussailles, les ajoncs, les hautes fougères, promenade de groupe, escaladant, déboulant, sautant, de roc en roc, vous connaissez la lande bretonne, c'est pittoresque. Un peu plus loin, page 18. Ainsi tout se passait en Bretagne. Tout reste lié à cette fameuse promenade, cette lande bretonne, si poétique, rêveuse et douce, aux couleurs voilées, étouffée, diminuée, évanouie. Entre-temps, il y a eu deux morts. F, mort. Comment? On ne sait pas. Héloïse, morte. Comment? D'une chute de vélo? Vraiment? En tout cas, tombée au milieu du chemin, dans la lande. Ce qui fait fiction dans les romans de Bessette est une chose prélevée sur la réalité, presque comme on prélèverait un morceau de peau. Hélène Bessette extrait de nos sentiments, dans nos sentiments, nos émotions, nos sensations, des caractéristiques que nous ne sommes pas sans connaître, mais sur lesquelles nous faisons silence. Elle les relève, elle les exprime. Les violences minuscules cachées dans les replis des actions les plus innocentes. Les lambeaux d'humiliation qui traînent dans les paroles bienveillantes. Les éclats de mépris dans les regards gentiment infantilisants. Mais aussi les grandeurs encore timides qu'on retient sous une soi-disant médiocrité. Les audaces qu'il nous suffirait de reconnaître en nous. Attention, Bessette ne le fait pas pour le lecteur, dans la louable intention de lui faire voir une vérité qu'il ignore ou qu'il veut ignorer. Elle le fait pour elle, d'abord. Sur elle, comme terrain d'expérimentation. Comment le fait-elle? Par un court-circuit de la phrase. Elle coupe le courant, elle reste dans le noir, voit ce qui se passe, rallume. Ça démarre, la phrase se lance, on va vers quelque chose. Un élément inattendu se présente, ça s'arrête, on part dans une autre direction. Ou peut-être, est-ce toujours la même direction, mais qui contenait déjà cette possibilité, non prévue, imprévisible. Parfois, c'est un son qui fait avancer, ou changer de direction, par consonance avec ce qui vient de se dire. Tout petit exemple. Panama, les larges avenues claires de Panama, les caïmans nonchalants, bric-à-brac étranges, les crocodiles et les cadillacs, l'église scientiste et les taux ondulés, l'étrange mélo, les Européens lascifs à la recherche de sensations fortes. Adorable, je te referme les guillemets, ces grandes balades. adorable association, les crocodiles et les cadillacs. Ça fonctionne dans la littération, ça fonctionne dans l'image. On voit glisser la cadillac, son chic carnassier, sa puissance de moteur et d'argent. C'est du fric qui roule sur la route. Ça fonctionne dans la violence, contenue à cet endroit-là. Cadillac, crocodile, c'est souverain. La sculpture du roman poétique se fait ici, sur ce point-là. C'est un des secrets de sa fabrication. Alors parfois c'est une association, un signifiant on appelle un autre. Grande balade, toujours. La manière de personnage navigue en tout sens, en tout lieu, dans sa vie, en lui-même, du nord au sud, en quête de l'étrange, de l'inconnu. Derrière le paysage, en quête de la nudité. Déshabillage. Déshabillage total de la robe totale. Roman cruel. Je ferme les guillemets. C'est ce saut qu'elle fait. La quête de l'étrange, tout d'un coup, la nudité, déshabillage. Répétition des motifs que Cédric a magnifiquement détaillé hier. Reprise en boucle d'insignifiant, mots tronqués. Hein, on l'a entendu encore ce matin. Téléphone, télève, tel, sonne, etc. Réduction du personnage à une négation verbale. Qui suis-je? C'est moins, bien entendu, c'est moins, c'est une soustraction. Moins une femme, moins la femme, moins les femmes. Lacan, il aurait été super content quand même avec des scènes. Qui suis-je? Une femme, je ne suis qu'une femme, ne que. Des modalités d'écriture qui font entendre ce qui se dérobe dans des actions ou des intentions que nous connaissons tous. Aimer son enfant, jusqu'où? Nous proposait Roland Meyer l'autre jour. Chercher le bonheur, jusqu'où? Avoir envie de disparaître, comment? Vouloir mourir, jusqu'où? Il y a dans l'écriture de Bessette un double travail, et là, pour moi, c'est un point essentiel, et de la langue, et de l'inconscient. Bien sûr, on l'a vu déjà, Bessette laisse filer dans son écriture ce qui relève d'associations libres. Et c'est un double travail permanent, ça écrit tout le temps, impression que nous a confirmé la lecture des manuscrits postérieurs à 73, c'est-à-dire la période où Gallimard arrête de la publier. Mais le danger serait de voir dans l'écriture de Bessette un flux libre de l'inconscient. Non, non, non. C'est-à-dire que ça n'est pas l'inconscient qui se déverse sur la page. On sait qu'il y a aujourd'hui des textes donnés à lire comme des romans et qui sont en fait des recueils de paroles, de séances d'analyse. Mais ça ne fait pas écriture. Ça ne fait pas littérature. Là, on a vraiment un double travail. C'est-à-dire que tout ce qui sort de l'inconscient, effet et fraction, est matériau. Et Bessette se coltine le travail de ça. Du coup, il y a sculpture, véritablement. Dans la réalité familière, et de cette réalité, Bessette fait surgir du réel. Et j'entends le réel comme ce qui déchire la connivence, précisément. Lui met un point d'arrêt, une limite. Ce qui fissure le rempart des certitudes, le sérieux affiché des positions morales. Je pose l'hypothèse que Bessette le découvre en l'écrivant, qu'elle écrit pour le découvrir. Je crois que je nomme réel ce qu'elle appelle le vrai. Quand elle dit, par exemple, dans Balade, écrire pour surprendre le vrai. Elle l'oppose terme à terme avec le faux. Déchirer le faux, dit-elle. Le concept de réel, le terme de réel, me permet de comprendre plus précisément ce qui se produit dans l'écriture de Bessette et ce qu'elle produit dans le lecteur. Chez le lecteur. Le réel est en dehors de la question du vrai et du faux. Il est ce qui continue de pulser sous les carcans dont nous nous affublons, sous les carcans qui nous protègent ou qui seraient censés nous protéger, dont on croit qu'ils nous protègent. Autant nous pouvons avoir l'illusion de garder la main sur la réalité, d'en dire un certain nombre de choses, hein, de la décrire, cette réalité, autant il nous est difficile de penser le réel. Poser le réel comme l'impensable de la mort qui bat en chaque chose. L'écriture de Bessette me confronte à ça. Mais peut-être que je suis là, en train de parler du désir, parlant du réel. Peut-être que je suis en train de parler du réel comme désir et comme impensable de la mort. Et là, c'est tout le roman de Si qui, pour moi, arrive. Désir du suicide, impensable. La sculpture savante, très savante finalement, du texte de Bessette, qui passe par le dérèglement, le court-circuitage, le dérangement, la juxtaposition, l'énumération, portée à un tel degré d'ébullition. Cette sculpture est ce qui lui permet d'entendre ce qui a lieu, ce qui se trame, dans la doublure des choses et des êtres. Il y a une forme de travail analytique, clairement, dans son écriture. Et Roland le disait, Bessette, faisant ce travail, se délie. Analysis en grec, délier. Mais Bessette fait encore autre chose. Bessette enfreint une limite de la décence. Et une décence liée à notre culture. Dans notre culture chrétienne, judéo-chrétienne, romano-chrétienne, comme on voudra, il y a une chose qui est sacrée, c'est la souffrance. On n'y touche pas. La souffrance est un lieu d'élection. On le voit dans la Bible. Mais la souffrance est un lieu d'élection. C'est un lieu de reconnaissance. Et c'est un lieu qui peut offrir une place. On est d'accord, pas agréable, pas jubilatoire du tout, mais c'est une place. Par défaut, souvent. Mais la souffrance ouvre une place à celui qui souffre et à celui qui va consoler de cette souffrance. Place de choix. Il y a une place d'élu, d'une certaine manière, dans la souffrance, dans notre culture chrétienne. La souffrance, c'est du sérieux. On ne rigole pas avec ça. Et avec la mort, encore moins. Ça souffre, c'est grave, donc on ne rit pas. Il y a de la douleur, il y a de la mort, donc on ne rit pas. Et Bessette est sacrilège par rapport à ça. Dans son traitement de la souffrance et de sa propre souffrance. Rapide extrait de Si. Maintenant, je m'en vais vers le bonheur. Un bonheur. Depuis longtemps, l'idée du suicide a traversé mon esprit. Le suicide, c'est le meilleur des crimes. La victime et le meurtrier ne font qu'un. C'est un crime parfait. Aller rattraper le criminel, il est loin. Aussi, la chose mérite réflexion. La perfection n'est pas si courante. Il est bon de se trouver méditatif lorsque l'occasion du parfait enfin se présente. L'inaccessible, enfin possible. Je suis le criminel et la victime à la fois. La culpabilité se trouve supprimée. Raison majeure, absence de châtiment ou vanité du châtiment, etc. Si. Donc, nous sommes avec Si. Une femme veut se suicider pour en finir avec une vie suffocante de mensonges, d'humiliation, de dépossession. Eh bien, Bessette n'écrit pas la triste histoire de Désira en route vers un hypothétique suicide. Bessette met en acte la fièvre qui habite Désira, prise dans la fièvre plus vaste d'un monde mécanique qui fonctionne à jet continu, à soigner, à guérir, même la patiente qui ne veut pas guérir, à vendre des chapeaux, des châteaux, des gâteaux, des journaux, des tableaux, des femmes seules, 30 ans, qui vont pas tarder à descendre l'escalier du déshonneur et de l'indignité. Désira décide de se suicider, in extremis, elle est à l'hôpital, le grand médecin, la jolie infirmière, lui sauve la vie. Je cite, « L'histoire commence dans le sang, pourvu qu'elle finisse bien. Mauvais début, inquiétude pour la fin, c'est tout le contraire. Happy end, c'est tout le contraire. La fin, c'est tout le contraire. Rien n'est sûr, ni le commencement, ni la fin. Tout est supposition. Vous êtes folle. Madame, vous êtes folle. L'opérée est folle. La transfusée, elle est folle. C'est pas notre faute si elle est en mauvais état. La malade sue, les médecins suent, tout le monde sue pour vivre. » Ce qui fictionne ici, c'est l'ambiguïté, dans sa dimension délirante, de la décision d'en finir avec la vie, ou la jouissance singulière de vouloir désespérément en finir, de vouloir désespérément une fin qu'on éloigne à chaque tentative. Et ça fonctionne aussi comme ça parfois dans la réalité, même souvent. L'écriture épouse dans une jubilation des mots, associations incongrues, entrechocs de chiffres, de sigles, le vertige d'un désir qui s'entête sur un objet introuvable. Le suicide est dans l'écriture. Il est dans le oui-non, dans la course à la mort, la course à la vie, dans la rapidité. Le suicide va vite, le livre va vite, très vite. Désira ne peut pas se fixer dans un corps. On ne sait pas quel est son visage. Comment sont ses yeux, ses cheveux? C'est juste, dame seule, 30 ans, à robe du soir, parfois à talons. Désira est une figure dans laquelle coulent toutes les femmes seules, épiées par le voisinage, piégées par tous les marchands, examinée par tous les docteurs, inspectée par tous les inspecteurs, soupçonnée par tous les directeurs, suspectée par tous les commissaires et jugée. Désira entre la vie et la mort. Les ténèbres sont tachées de sang, ça appelle le feu rouge. Je cite, « Et je le brûle !» crie le docteur, appelé d'urgence. Sifflet, strident, bloqué, coincé. L'agent est en dérangement. Je ferme les guillemets. Malades et médecins se prennent à une drôle de danse, indispensable l'un à l'autre, un même élan, un même agacement. Mais madame, je cite, et c'est tout le contraire, si, non, mais, il y a un mais, trop pour ainsi dire, trop sauvé, un peu trop, trop guéri. Comment va votre cliente, docteur? Comment va-t-elle? Cette dame, se porte-t-elle mieux? Elle est sur pied, répond-il. Il se lave les mains, paraît perplexe. Advienne que pourra, murmure-t-il. Il éponge son visage. Tout ce qu'on a fait pour la sortir de là, remise à neuf, du bel ouvrage. Manière un peu brutale, mais il n'y avait pas le choix. Le résultat, très satisfaisant. Apportez le whisky, les cigarettes, téléphone placidement l'infirmière, soigneuse, douce, méthodique, méticuleuse, affable. Ça ira comme ça, achève-t-elle. Et maintenant, la malade sauvée crie. Le résultat dépasse les espérances. Elle dit, elle crie, « Je me suicide !» C'est très décourageant, soupire la jolie, intelligente infirmière. Elle part demain avec son ami. Il faudra tout recommencer. Je me suicide, crie la malade. J'ai parlé. Ai-je parlé? Qui suis-je? Crie la malade en voie de guérison, qui a vu la mort de près, les frayeurs des derniers instants, les inéluctables instants, douleur sans nom. Fin de citation. Bessette ne nous laisse pas pleurer sur la douleur sans nom. Je reprends, citation. Toutefois, ne soyez pas bouleversés si je meurs si jeune et si belle. Je meurs froidement, méthodiquement, raisonnablement, rien de passionnel. En fait, rien de bouleversé ni désespéré. Fin de citation. Pas le temps de pleurer donc. Faut pas laisser refroidir le suicide. Hein. Je cite encore. « Je vais chez un autre, dit-elle, celui-ci ne m'a pas tué. À qui le tour ?» Fin de citation. C'est un putain de cirque d'arriver à mourir, avec des médecins qui ne vous laissent pas partir. Parce que si vous laissez partir, c'est qu'ils ne seraient pas des bons médecins, s'ils ne vous sauvent pas. Donc c'est la question du médecin, c'est pas la question du malade. Je cite, j'en attrape pour 20 ans, 20 ans de vie, à cause du savoir-faire du médecin. En fait, le seul événement, la seule distraction, dans une vie où rien n'arrive, où rien n'est arrivé, où il ne se passe rien, eh bien on vous l'enlève cette distraction. Qu'aurait écrit Bessette, j'ai pensé, qu'est-ce qu'elle aurait écrit du suicide interdit sur le lieu de travail auquel on assiste maintenant? Et ce n'est pas par souci des employés, pas du tout, non, non. Non, non, parce que s'il y a des suicides, c'est que ça atteste de l'incurie des dirigeants. Par exemple, les dirigeants d'Orange qui sont actuellement, qui passent en justice actuellement. Et par exemple, ceux du groupe taïwanais Foxconn Technology sont très en pointe sur la question. Chaque employé s'engage par écrit à ne pas attenter à ses jours quand il signe le contrat d'engagement. Ça va plus loin parce que on précise, c'est tout ça, je pourrais vous donner les références. Hein. Des filets sont tendus autour des bâtiments pour dissuader les sauts dans le vide. Alors, on ne dit pas, et moi je me demande, quelles sont les mesures de rétorsion sur les suicidés quand ils ont enfin le contrat. On ne dit pas encore. Bon. L'écriture de Bessette déborde d'énergie pour dire la course à la mort. La course à la mort est d'une vitalité extraordinaire, exténuante pour le lecteur. Et là, je ne résiste pas à vous lire. Tout si. Bon, on y va. Un extrait, parce que quand même, il est assez costaud, celui-là. Et le hurlement d'un chien dans la nuit, noir, suite sans verbe, est, vertige seulement, vertige seul autorisé, délire, délirium, vertige, vertigium. Si tu parles, tu parles rapide, débit rapide, caractère accolé, sans respirer, caméra, cinéma, électronique, filature, mise en scène, décor, hallucinant, halluciné. La malade a une rechute, elle souffre d'hallucinations, poursuite, traquenard, piège, embuscade, vol, rire, courrier, numéro, illusion, illusionniste, le prestidigitateur, journaux, photographe, caractère d'imprimerie, publicité, sexe, crime, sang, dégoulinant de lumière, de l'encre et du néon, répandu, plein feu, sûr, jusqu'au délire, jusqu'au plaisir, sadisme, avion, langage du ciel, morse, signaux, message, mot de passe, grille, clé, déchiffrage, télégramme, vite, abrégé, vite, abréviatif, vite, initial, vite, slogan, repère, sigle, découdre, fièvre, les fiévreux, le fiévreux des Andres, vertige, vertigium, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 ZYP, GRP, GRP, GRP. Mais à tout prix, une bande, la bande Z, la bande X en manchette, la bande Z et la bande X en étaient venues aux mains, corps à corps, pourquoi, double vie, non, si, non, 6, 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 non, oh, cynique, l'homme et l'enfant, cauchemar, les téléphones, hôtel, fébrilité, chambre, rapidité, débit, ascenseur, hôtel, 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 sinistre, jusqu'à l'ivresse. Ivression. Si nous lisons B7, alors, est-ce que c'est ça? Je passe une page. Voilà. Je vous disais, elle déborde d'énergie. Le livre s'ouvre par ces mots. Une chambre pour mourir. Réminiscence. Délicat hommage à une chambre à soi de Virginia Woolf. Le suicide sur 196 pages fait écriture. C'est un lieu à soi et un lieu pour écrire. Tout ça, c'est d'abord et toujours de l'écriture. je cite, écrire « Je suis guéri » sur 300 pages, toutes sortes de choses épouvantables et vraies sur 300 pages. Épouvante. Fin de citation. Si nous lisons « si », en pensant qu'il s'agit d'écriture et de la condition d'une femme qui écrit, quand elle ne s'appelle pas Simone de Beauvoir, quand elle n'appartient pas au milieu de Saint-Germain-des-Prés, quand elle n'est pas fille de ou femme de, quand elle est venue bien bas, alors le texte prend une autre dimension, s'offre à une autre lecture. Je cite, si, l'aventurière est droguée, l'aventurière sans aventure, non excitée, non énervée, c'est parier, tous les moyens sont bons, et l'enjeu est une femme, méthodiquement, patiemment, au long des années, car cela dure des années, et conformément à l'enseignement reçu dans les écoles, obstinément. Désirer, désir, désira. Putain, le téléphone sonne, le téléphone, délire, délirium, vertige, vertigium. Si, désir, désiré, désira. Call girl, tel, télé, téléphone, tel, télé. Si, désir, désiré, désira. Express, l'affaire d'une nuit, ça ira vite. Si, désir, désiré, désira, l'enfant terrible. On lui pardonne, bien sûr, tout compte fait, on pardonne. C'est une enfant, une terrible enfant. Donc on pardonne. Qu'à cela ne tienne, on lui pardonnerait. Absolution garantie. Tout le monde lui pardonnerait. L'inspecteur peut commencer. Le ministre, bien entendu. Le professeur, c'est certain. Indulgent, pensant à ses propres faiblesses. Le docteur, mais mon petit, quelle gamine, qu'est-ce que tu crois? Il pardonne. Le journaliste, le cinéaste, épatant s'il pardonne. Tous deux ont fait fortune. Inespéré, conceptier. Une sorte de tendresse lie les bourreaux à leurs victimes, dont ils connaissent l'intimité muette. Mais quoi, on est des amis. On n'est pas des tortionnaires. On est favorable, compréhensif. La femme qui fait face, la femme qui écrit fait face à l'adversaire qui la suit partout, fût-ce au bout du monde. L'adversaire est désigné au masculin. Je cite, un pas vide, désir, désiré, désira. Face aux inspecteurs, aux professeurs, aux directeurs, aux docteurs, aux sénateurs, aux ministres, aux avocats, aux journalistes. Face aux aviateurs, aux ingénieurs, aux dessinateurs, aux cinéastes et aux proxénètes. Fin de citation. Les femmes, parfois, se font l'alliée de l'adversaire. La chef, la concierge, la tante, la mère, la voisine, d'autant plus si elle est directrice d'école. Et la question qui se pose, pourquoi on la regarde? Pourquoi on la suit, cette femme qui écrit? C'est que la question se demande, mais qu'est-ce qu'elle fait? À quoi elle passe son temps? Et avec qui? Il y a autour de la dame seule 30 ans un halo de questions qui préoccupent en permanence l'entourage, tout l'entourage, qui emplissent la vie de l'entourage, son sexe. Qu'est-ce qu'elle en fait, son sexe? Et avec qui? Et si elle n'en fait rien, et qu'on attende pour rien qu'elle en fasse quelque chose de son sexe? À qui ça arrive-t-il, ça, d'être harcelée comme ça? Ça arrive au personnage, désir, désiré, désira, avec qui le docteur il devient très familier tout d'un coup, je cite, « Voyons mon loulou, mon dodo, mon petit Nora, mon petit Désira. Calme-toi, mon petit, je t'écrirai. » Fin de citation. Ou est-ce que ça arrive à la femme qui écrit et qui trouve enfin une chambre pour écrire? Et la question des chambres, des lieux, des dépossessions de lieux dans la vie de Bessette fera elle seule l'objet d'une étude ou d'un colloque. Le personnage est une hypothèse. Alors, posons. Une dame seule, 30 ans, qui ne sait pas si elle doit se suicider. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez 196 pages pour me raconter ça. Dans La Grande Balade, le personnage aussi est un personnage prétexte. Et d'ailleurs, il se trouve après le, je cite, il se trouve après le mot fin. Ou plutôt, le mot fin se place à la première page du roman. C'était une fin. La vie établie, la vie apprise, qui s'est terminée à la première page, a fait place à la vie non établie, non apprise. La vie étrange, qui se place entre ciel et terre. Fin de citation. L'écriture a le premier rôle. C'est elle qui s'illustre dans le roman. Nous n'échappons pas au présent de l'écrivaine, au temps présent de l'écrivaine. Me revient en mémoire une question insolite, insistante, dans Fading, inédit. Dans Fading revient cette phrase. Qui est derrière moi? Qui est derrière moi? pour 20 ans, pour 30 ans, pour l'éternité. Fin de citation. Ou dans Garance Rose, on l'a entendu tout à l'heure, l'inconnu de 4h30 qui vient la mater ou la surveiller ou la piéger à la sortie de l'école. L'écrivaine en train d'écrire, se situant au présent de cet acte-là, se sentant épiée, toujours cette question, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Question d'autant plus vraie pour une femme qui écrit dans les années 50. Même Duras, je ne sais plus si c'est dans La vie matérielle, évoque cette question. Ça n'est pas si simple pour Duras, au départ même, d'écrire. L'écrivaine ne lâche jamais ce temps-là du présent. Et c'est à partir de son présent d'écriture qu'elle va convoquer, rappeler ce qui est arrivé avant, 10 ans avant, 20 ans avant, 30 ans avant. Mon calendrier se plie comme un accordéon, dit Bessette dans Fading. Et Bessette rapproche de son présent d'écrivaine des événements, ou même sans parler d'événements, elle va rapprocher des traits laissés par ce qui a été vécu, des cicatrices jamais fermées. Et elle va activer ces traits, ces cicatrices. Le récit de Fedin, par exemple, qui dit une collaboration par inaction, par non-intervention, entre l'Église protestante et l'occupant nazi. Une collaboration par laisser-faire. Eh bien, le récit de Fedin n'est pas du tout enclos dans l'espace de 2 années, 1943-1945, où ça se passe, où l'action se produit, et son écho dans l'année 1950. Bessette indique à la dernière page du tapuscrit, elle met ses dates, 1973-1976. Donc, on se base sur ces dates, on se dit, Bessette a écrit à ce moment-là. Et c'est à partir de ce présent de 1973-1976 que Bessette questionne la non-intervention de certains quand il y avait de très jeunes vies à sauver. Je cite, « Ne rien faire dans ce cas est vital, vital, ne pas comprendre, ne pas voir, ne pas interroger, ne pas entendre, ne pas répondre. Cette négation totale, force invincible et sans égale, ne pas croire à l'évidence, aux vérités terrifiantes, fugitives, par instant, dans l'âme, en désarroi, l'esprit ébranlé, même pas les « qu'est-ce qu'on fait faire ?» Vérité paralysée, par les autres, par eux, car c'est tellement inimaginable, incroyable. Et nous étions jeunes, il faut bien comprendre que nous avions autour de 20 ans. Nous n'étions pas prêts pour les tragédies, les drames, les malheurs, les fuyards, les exécutions, les tortures, les déportations, les exterminations. Nous ne les aurions pas imaginées et nous ne les imaginions pas. La guerre nous avait trouvés en train de chanter, de rire, de plaisanter et nous avons continué à rire, à plaisanter, à chanter. Fading. Fin de citation. Alors, j'entends. Moi, j'entends cette question que pose Bessette. Qui est derrière moi? Pendant que je fais le décompte des morts, des accidents, dit-on, que tout ça a provoqué. Je cite, Fedding. Interrogatoire sur les coïncidences. 9 accidents, c'est beaucoup? Pourquoi dites-vous accident? Que voudriez-vous dire? Crime? Ils ne sont pas tous morts. Combien avez-vous de morts? 4 morts. Seulement? Et les autres? Morts des suites d'accidents. Combien de temps? On ne sait pas. Dans les chambres blanches, dans l'ouate des paralysies, des langueurs. Le temps ne compte plus. Le temps aveugle, blanc, sans voix, des morts lentes, sans horloge et sans calendrier. Combien avez-vous de survivants? On ne sait, je ne sais pas. On ne sait pas qui a échappé. Combien de blessés, de disparus? 3, il me semble. On les a soignés? On ne soigne pas. Ou du moins, on ne se presse pas de soigner. Fin de citation. 30 ans après, Bessette écrit l'omission, la démission, la non-intervention. Ce qu'on a omis de dire et de faire. Finalement, ce qui fait fiction, c'est l'impensable. C'est impensable qu'on ne soit pas intervenu, qu'on n'ait pas agi, qu'on n'est pas soigné à temps. C'est étrange tout d'un coup, comment le couple guérir, écrire, traverse les romans de décès. Guérir comme écrire. Une écriture de ce qui est en train de se transformer, de se guérir, de se sauver. Que s'agit-il d'écrire? Tout ça qui rendrait le suicide inévitable, nécessaire, salutaire, la santé par la mort. De quoi on parle? De la folie comme anomalie psychique ou de la névrose créatrice? Ce dont me parle aujourd'hui le roman « Si », mais ce n'est plus du tout ce que j'avais lu, retenu, choisi de retenir lors de ma première lecture, lors de la performance que j'en avais faite avec la contrebassiste Elise Dabrowski. À l'époque, j'adorais l'histoire d'une femme qui ne savait pas si elle allait se suicider. Et aujourd'hui, pour moi, Si est une longue errance sur ce qu'est l'acte d'écrire, sur les conditions, les possibilités de l'acte d'écrire, par où il est nécessaire de passer pour pouvoir écrire, ce qu'il faut capter de ses propres rythmes, de son propre rapport au temps, rapport d'apprivoisement, d'insolence, de terreur, de sentiment d'exclusion. Et observer ça contribue déjà à s'en déprendre. Trouver en soi, dans le battement de son propre sang, l'anonyme et le multiple, qui permettent d'écrire à partir de soi et non pas sur soi. En ce sens, Bessette est dans ses romans d'une présence irradiante, et ça irradie pour longtemps. Et elle ne raconte surtout pas l'histoire de Madame Bessette. On s'en fout de Madame Bessette. Souffrante, glorieuse, ses déboires conjugaux, professionnels, amoureux, on s'en fout. Elle le dit d'ailleurs souvent, on s'en fout. Ceci me semble vrai aussi longtemps qu'elle élabore le roman. Le roman la structure aussi longtemps qu'elle se confronte à l'exigence de la composition, des multiples réécritures, densification par développement, par effacement, par précision. Et ce que nous avons constaté, Renzo, Cédric, moi, lisant les manuscrits, c'est que lorsqu'elle arrête d'écrire des romans, à partir de 1994, si ma mémoire est bonne, les flux émotionnels ne sont plus contenus et la débordent. L'écriture devient graphomanie. Je pense au manuscrit de ce qu'elle la nomme portrait. La graphie même, le flot de la mémoire, envahissent la page, submergent tout, le texte comme l'écrivaine. Bien sûr, ce sont des hypothèses que je fais. Hein. Nos études de Bessette n'en étant qu'à leur aurore, tout ça doit être vérifié, développé. Mais à partir de là, il n'y a plus l'ampleur du multiple et de l'anonyme, la respiration qui l'autorise. Ça se resserre sur la femme, Hélène, privée, dépossédée, exclue. Lorsqu'elle affleure dans ses romans, la femme, c'est toujours sous, signe, sous la forme d'un signe, d'une appellation. Par exemple, Madame Je, dans Si, au chapitre Je parle seul. Je ne vais pas le citer parce qu'il a déjà été cité hier sur les 40 001 lignes. Je vais sauter un tout petit peu. C'est là où Si est une extraordinaire métaphore. La rencontre tentée, tentante, attendue avec la mort est la condition même de l'écriture. Je ne dis pas du tout là qu'il faut passer par des tentatives de suicide pour
pas ici.
Pas ici.
Partir de l'antique.
Pas du tout. Mais écrire suppose de se confronter à l'idée de la mort et de sa propre mort. Disons-le autrement. Écrire suppose que nous disposions enfin de notre vie pour écrire en elle, à partir d'elle. Ça veut dire comment je suis propriétaire et libre dépositaire de ma vie. Je vais plus loin. Comment je ne suis redevable de ma vie à personne, pas même aux parents, et peut-être surtout pas aux parents. Ne jamais confondre la dette symbolique que nous pouvons avoir envers nos parents qui nous ont donné un nom, qui nous ont nommé et donné le langage. Dette symbolique que tellement souvent on fait glisser sur une dette dans la réalité, avec tout ce que j'ai fait pour toi. C'est comme ça que tu me remercies, hein? On connaît tous cette chose-là. C'est-à-dire, notre seule dette est symbolique, c'est tout. Donc, si je ne suis redevable de ma vie à personne, et pas aux parents, ni au patron, ni à un mari, ni à un amant, à personne, alors, j'en dispose pour moi-même. Affrontant la question, c'est tellement drôle, page 92, dans Si, meurs-je ? Désira découvre qu'elle ne doit rien à personne, ni au marchand de gâteaux, ni au marchand de chapeaux, pas même au marchand de parapluies qui était un peu plus gentil que les autres, avec sa jolie bouche au Ricard. Mais lui non plus n'a pas compris. Il n'a pas compris qu'elle ne se contente pas des humiliations quotidiennes et des minuscules bonheurs, et qu'elle cherche autre chose, qu'elle écrive autre chose. Elle ne doit rien à Henri, ni à Léon, ni à Raymond, ni à Fernande. D'ailleurs, ils n'ont rien compris, elle ne les invitera pas à son enterrement. Et là, je veux citer pour Julien, et aussi en continuité de la belle intervention de Roland Meyer, Lucien Israël. Parce que c'est Lucien Israël qui m'a fait anonymement ce cadeau. Lucien Israël, le psychanalyste, dit « À partir du moment où le droit à disposer de notre vie est acquis, la peur de la mort disparaît. Seulement, précise-t-il, l'acquisition de ce droit à disposer de sa vie passe par l'inconscient. » Et là, c'est quand même un sacré boulot. Ça, c'est moi qui ajoute. C'est dans Pulsion de mort de Lucien Israël. Je ne peux pas m'empêcher d'imaginer avec un grand plaisir qu'ils sont tous les deux là-haut, s'il y a un là-haut, Bessette et Lucien Israël, et ça doit sacrément causer là-haut. Bessette procède à ce tissage qui ramène dans l'écriture des bouts de réel arrachés à l'inconscient. S'octroyer le droit à disposer de sa vie sans la servir au compte-rendu qu'on en fera à autrui. Et je crois qu'énormément de romans aujourd'hui ne sont que des comptes-rendus. Donc, supposer, s'octroyer le droit à disposer de sa vie a pour corollaire que nous en soutenions seul le désir. Et je reviens à ce qui ouvrait ma conférence. Que nous soutenions seul le désir de cette vie, de cette écriture. Et ça, soutenir notre désir d'écrire, c'est à actualiser, réactualiser chaque jour, chaque matin. Pas de répit. Je me suis toujours demandé, qu'est-ce qui fait prendre le pinceau à Bram Van Velde quand il se lève et que personne ne sait qui peint encore, ou que peu de gens le savent et encore moins savent ce qu'il peint? Qu'est-ce qui lui fait prendre le pinceau? La nécessité, certes, mais... Et encore, la nécessité en tant que telle ne suffit pas. Rilke est très explicite sur ce point dans le Testament. Mais je ne citerai pas aujourd'hui, mais c'est une question sur laquelle Rilke est extrêmement pertinent. Alors, comment rejoindre ce rythme intérieur qui nous fait entrer dans la durée de l'acte quand il n'y a rien d'autre à faire que écrire? Je reprends les quelques lignes de Si déjà évoquées et je rejoins ce que tu as évoqué hier. Ne soyez pas bouleversés. Si je meurs, si jeune et si belle, je meurs froidement, méthodiquement, raisonnablement, rien de passionnel. En fait, rien de bouleversé ni de désespéré. Non, je comprends les choses, voilà tout. Si je nie qu'il y ait là-bas, de l'autre côté, quelque chose à atteindre, ce n'est pas par désespoir. Ce n'est pas parce que, ayant attendu ici, sans jamais recevoir, j'en serais désespéré. Non, j'ai compris que, s'il n'y a rien à attendre dans la vie, à bien plus forte raison dans la mort. Fin de citation. Madame Je, libre pensante agissante, pourrait trouver avantage à répondre à la question de ce qu'il y a à attendre par un Dieu qu'elle irait retrouver là-bas, de l'autre côté, dans la mort. Il pourrait y avoir quelques bénéfices à ça, hein, avec prêtre, pilule d'espoir, sourire gratifiant, etc. Mais elle le crie en majuscule, tu nous l'as dit hier, c'est bien isolé en milieu de page, il n'y en a pas. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien, le mot est vide, c'est un petit dessin, snob, bavardage, chantage, illusion. Fin de citation. Pas de Dieu donc. Mais s'il n'y a pas de Dieu, le ciel est vide, alors du coup, je cite, grande balade, enfin du temps pour la couleur du ciel. Le ciel est libre. Hein? Oublie du silicone et du coronil. La grande chambre au bleu seul, le bleu de personne, que personne ne sait faire, ne peut imiter, le bleu génial. Fin de citation. Je fais l'hypothèse. Et je te l'adresse, Eric. Je fais l'hypothèse que l'expérience de la foi, si puissante, si respectée chez Bessette, se transmute en une pratique spirituelle dont le lieu est l'écriture. Les romans poétiques de Bessette sont traversés, architecturés, selon cette faille, une absence abyssale. La partie est perdue, dit-elle, irrémédiablement perdue dans Cy. Elle est perdue du côté d'une adhésion à un dogme. Elle est gagnée du côté de l'écriture. Qu'est-ce qui pourrait limiter cette écriture, son invention folle, son audace formelle, dès lors que Dieu n'est pas? Plus rien ne peut limiter l'écriture. Et l'écriture va occuper la place vacante dans le monde des ténèbres. On continue de l'épier. Les envieux, les jaloux lui collent au basque. Elle dit: tel est le prestige de la lettre imprimée. On ne la lâche pas. L'écriture chez Bessette s'approprie la totalité de l'espace. Et il n'est pas dit qu'il n'y ait pas de salut. Le salut dans l'œuvre, par l'œuvre. Mais le salut n'est pas attendu, n'est plus attendu. La fin n'est plus attendue. La question de la fin est tellement présente dans les romans de Bessette. Balade, grande balade, il n'y a pas de fin, attendre la fin, il n'y a pas de fin, sinon celle des yeux fermés, aveuglés, etc. Ce qui est remarquable dans le positionnement de Bessette, en tant qu'auteur, c'est l'autorité implacable qu'elle exerce, quels que soient les revers qu'elle essuie au quotidien, l'autorité que nous avons entendue dans l'enregistrement de l'interview avec Paget. Mais du côté de l'écriture, ça ne flanche pas, jamais. Chaque manuscrit, chaque tapuscrit le confirme. Alors, je vous propose, on fait un pas de plus. L'autorité n'est pas celle de Bessette. L'autorité est celle de l'écriture en tant qu'expérience intérieure. Et là, je rejoins Bataille. L'écriture est à elle-même autorité en tant qu'expérience intérieure, en tant qu'expérience spirituelle. Du coup, on entend singulièrement cette phrase dans Cy, je cite, « Le plus grand des voyages est à l'étude dans ces pages. » Tu me disais, Eric, hier, que après l'arrêt de la foi, elle ne laisse plus rien paraître. Et moi, je te dis, l'expérience intérieure n'a plus à se manifester dans des rituels, dans des communautés, dans des assemblées, dans des gestes. Et c'est là où, pour moi, Hélène Desset quitte l'appartenance à la communauté. Si elle est dans une communauté, alors c'est celle dont Bataille et Blanchon ont parlé, la communauté des hors-communautés, de ceux qui sont sans communauté. L'expérience intérieure éloigne du besoin insatiable de se reconnaître dans l'autre. Mais quand Blanchot dit « l'expérience intérieure est à elle-même autorité », il ajoute, entre parenthèses, « et l'autorité s'expie ». Alors, du coup, je comprends. Je comprends ce qui s'est passé avec Desset. C'est-à-dire que elle va « expier », entre guillemets, par la solitude, par la dépossession. Quelque chose va se passer à ses dépens, par les renvois, etc. Et je voudrais juste finir par ça, c'est que Bessette ne peut pas être à la fois dans l'expérience intérieure et ne pourrait pas être dans cette jouissance des ambigus frottements avec une société fut-elle de Saint-Germain-des-Prés qui quand même demande à l'époque une certaine élégante, même sans la juger du tout, mais courtisanerie, pour en faire partie. Aujourd'hui, il me semble très très clair, et c'est peut-être un élément de réponse à ce qui s'est passé pour Bessette, qu'on ne peut pas être vraiment dans l'expérience intérieure telle qu'elle l'a été, j'en fais l'hypothèse, et puis se faire accepter dans la société de Saint-Germain-des-Prés. Il y a un mode de jouissance qui, à un moment, est radicalement écarté. Elle a d'autres ailleurs. Mais à cet endroit-là du social, non. Je terminerai sur une phrase. J'aurais voulu travailler, mais je n'ai pas le temps, sur ce point maintenant. Si l'écriture est pour Hélène Bessette, expérience intérieure, si elle est à elle-même autorité, et que cette autorité s'expie. Cette expérience est également contestation d'elle-même. Mais ce serait un autre chapitre, c'est-à-dire, mais j'en pose les bases ici, l'écriture d'Hélène Bessette ne cesse de se contester elle-même. D'un ennui indicible, cette manière de roman, pas de drame ni suspense, etc., comme elle dit dans Ballade. Mais à plein d'autres moments, elle le dit. Elle conteste sa propre écriture. Et c'est en ça qu'à aucun moment, on ne peut la replier, la rabattre, la conclure. Voilà, merci à vous. Bravo.